Bonjour chers amis auditeurs et bienvenue dans cette nouvelle émission concernant les grands personnages de la Bible. Alors jusqu'à présent, nous avons vu la plupart des prophètes, voire même tous les prophètes de l'Ancien Testament. Et nous allons maintenant poursuivre notre voyage, cette fois-ci dans le Nouveau Testament. Alors nous allons parler, dans cette émission d'aujourd'hui, d'un certain Yohanan, Jean, qui signifie « Dieu a fait grâce ». Et nous sommes vers l'an 38 de notre ère actuelle, en Judée, dans les environs de Jérusalem, plus exactement dans la région de Beth-Cham, à proximité du Jourdain, et sous le règne de, nous sommes à l'époque, de l'empereur Tibère, du gouverneur Pilate et du roi Hérode, dans cette région un peu tendue militairement. Et on voit une foule considérable qui se presse pour aller voir et entendre un prophète qui prêche, qui crie dans le désert, et pour être par lui plongé dans l'eau du fleuve, le Jourdain, en préparation de la venue du Messie. On parlait de ce prophète du désert qui était habillé en poils de chameau et qui mangeait des sauterelles et du miel, en disant que c'était le Baptiste, parce qu'il baptisait dans l'eau. Vous avez compris, il s'agit bien sûr de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, donc, c'est celui qu'on considère aussi comme le dernier et le plus grand des prophètes. C'est lui qui inaugure le passage de l'Ancien au Nouveau Testament. Alors, pour mieux le connaître et nous en parler, il y a aujourd'hui sur ce plateau un prêtre de la paroisse de Cahors, Stéphane Aubugeot. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Alors, nous avons décidé d'articuler notre propos sous quatre rubriques. On va d'abord, Stéphane va d'abord nous préciser dans quel contexte a commencé cette histoire de Jean le Baptiste. Ensuite, nous allons voir ensemble comment ce prophète, dont j'ai dit qu'il pouvait être considéré comme le plus grand, était attendu à cette époque-là. Nous allons voir aussi dans une troisième partie, comment ce prophète avait autorité et qui annonçait. Et enfin, comment ce prophète a su s'effacer pour permettre, on va le voir, à Jésus de devenir ce qu'il a été. Alors, cher Stéphane, première partie de cette émission, pourrais-tu nous dire dans quel contexte a commencé cette histoire de Jean le Baptiste ?
Alors, nous sommes au tout début de l'ère chrétienne, l'an zéro pour faire simple, au sein du peuple juif, il y a l'espoir d'une intervention de Dieu. L'occupation romaine est de plus en plus insupportable, les Romains mettant en place des rois tyrans pour gouverner la terre promise, par exemple Hérode le Grand. Cet espoir oriente tout au long du 1er siècle l'attention du peuple vers certains passages prophétiques de la Bible. Et les scribes, les érudits, ils cherchent les traits de l'homme providentiel qui délivrera le peuple juif.
Alors Stéphane, comment Jean-Baptiste devient cet homme attendu ?
Alors, l'attente se construit en deux étapes, en deux temps. En premier, le contexte va être propice à toute personne qui peut endosser la figure de prophète. Il est facile de repérer les versets bibliques qui permettront au peuple de reconnaître en Jean un prophète et qui vont le caractériser dans les évangiles.
Alors en effet, on peut citer parmi ces versets bibliques Ézéchiel, notamment dans chapitre 30, 25, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. » On retrouve aussi cette annonce dans Isaïe 40, versets 3 à 5. « Une voix proclame, dans le désert, préparer le chemin du Seigneur, tracer droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Alors, voilà, on sent bien là Jean le Baptiste et l'œuvre de Jean le Baptiste. Et en second, Stéphane ?
Il y a ce contexte propice, et en second, il y a cette conception miraculeuse de Jean, qui, dès sa naissance, va focaliser sur lui une grande partie des attentes. La plupart des conceptions ou naissances miraculeuses ou des sauvetages miraculeux de nouveau-nés, comme Moïse tiré des eaux, ont lieu dans la Bible dans une certaine discrétion. Ce ne peut être que par une enquête rétrospective ou par un témoignage que ce qui s'est passé tout au début devient connu. Alors, ce n'est pas le cas pour le Baptiste, car Luc nous apprend dans l'Évangile que l'annonce par l'ange Gabriel à Zacharie est faite dans le temple, à un moment solennel de l'année liturgique, lorsque Zacharie officie. La foule rassemblée autour du temple comprend qu'il y a eu une intervention surnaturelle. Simplement, comme Zacharie est muet, les questions restent en suspens un moment. L'explication, les gens l'ont quelques mois après, lorsqu'Élisabeth met au monde Jean, et que Zacharie retrouve la parole. Luc décrit les choses ainsi.
Alors voici donc ce que dit Luc. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit. Alors on parle évidemment de Zacharie. Sa langue se délia. Donc Stéphane vous l'a dit, il était devenu muet. Muet pourquoi ? Parce qu'il ne croyait pas à la promesse de Dieu que son épouse Élisabeth, qui était stérile, puisse enfanter. Donc il n'y croyait pas. Et en quelque sorte, sous forme d'une punition, il a été privé de la parole. Donc à l'instant, il retrouve la parole, et je continue la citation de l'évangile de Luc. « La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Mais que sera donc cet enfant ?» Alors, cette question, Stéphane, je te la pose. Quel a été cet enfant ?
Alors, il y a ce contexte, et puis il y a cet événement qui va donner à Jean une célébrité initiale et une autorité spirituelle. Le genre de vie de Jean, devenu adulte, marque ses contemporains. Dans les évangiles de Matthieu et de Marc, les auteurs décrivent le vêtement du Baptiste et la manière dont il se nourrit. C'est assez rare, peut-être l'unique fois dans les évangiles où on prend deux versets pour s'arrêter à ce genre de détails. Jean le Baptiste est un prophète de la lignée de tous ces prophètes qui ont été mis à part pour délivrer leur message, un message qui souligne à la fois la nécessité de la justice et le respect des mœurs. Quelques 25 ans après sa naissance, Jean donc attire à lui les foules. Il avait été évidemment annoncé, comme nous l'avons vu. Et surtout, il répond aux attentes évoquées. Il met en pratique le message exigeant de conversion qu'il annonce et il va marquer durablement le peuple juif. Nous avons plusieurs témoignages, et dont un témoignage très intéressant, un témoignage non chrétien, de cette célébrité et de cette autorité du Baptiste. C'est le témoignage de Flavius Joseph dans les Antiquités juives.
Oui, alors donc ce Flavius Joseph, c'était un non-chrétien, évidemment à l'époque, un laïc on dirait aujourd'hui.
Non, un non-chrétien, il ne croyait pas du tout.
Voilà, c'est ça. Donc, alors il dit dans ses écrits que ce Jean-Baptiste, et je cite, « exhortait les Juifs à pratiquer la vertu, à agir avec justice les uns envers les autres, avec piété envers Dieu, pour être unis par un baptême. Comme les autres juifs se rassemblaient, car ils étaient exaltés au plus haut point en écoutant les paroles de Jean, Hérode craignit qu'une telle force de persuasion n'incita à une révolte. Chacun semblait prêt à faire n'importe quoi sur les conseils de cet homme. Il estima bien préférable de prendre les devants et de le supprimer avant que quelques troubles surgissent du fait de Jean, plutôt que de se retrouver lui-même dans l'embarras si un bouleversement se produisait et d'avoir alors à le regretter. Victime des soupçons d'Hérode, Jean fut envoyé prisonnier à la forteresse de Machéronte, dont j'ai parlé plus haut, et il y fut mis à mort. Donc c'est, voilà, ce sont le témoignage écrit, c'est le témoignage écrit de ce Flavius Joseph sur ce qu'il pensait de Jean.
Alors, il écrit à la fin du 1er siècle, et à ce moment-là, il reprend les éléments importants de l'histoire de son peuple, et donc il parle évidemment de Jean. Nous avons bien sûr des exemples de cette notoriété dans le Nouveau Testament. Voilà quelques passages qui illustrent l'autorité et la célébrité de Jean.
Alors, tu as sélectionné notamment, oui. Stéphane, un passage de Matthieu, chapitre 21, versets 23-27, que je vous lis. « Les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de Jésus et demandèrent « Par quelle autorité fais-tu cela et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répliqua « À mon tour, je vais vous poser une question, une seule. Et si vous me répondez, je vous dirai, moi aussi, par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ?» Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole ? » Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus « Nous ne savons pas. »
Voilà, dans ce passage, merci à Jacques de l'avoir lu, on voit bien que les anciens qui sont là pour piéger Jésus vont être eux-mêmes piégés. Mais pourquoi ? Parce que il y a cette notoriété de Jean qui vont faire qu'ils ne pourront pas répondre à la question de Jésus. Ils craignent la foule qui tient Jean pour un prophète. Un autre exemple, nous l'avons des années plus tard, sans doute dans les années 50 après Jésus-Christ, au moment de la prédication de Paul, quand il arrive à Éphèse. Nous apprenons qu'existe dans cette ville une communauté de disciples qui suivent Jésus, mais qui s'en tient au baptême de Jean. C'est dans le livre des Actes.
Alors, donc, la citation qui se situe dans ce livre des Actes est la suivante. « Paul arriva à Éphèse, où il trouva quelques disciples. Il leur demanda « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Paul reprit « Mais quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent « Celui de Jean le Baptiste. » Paul dit alors « Jean donnait un baptême de conversion. Il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. » Voilà. Alors Stéphane, comment Jean annonce Jésus ?
Voilà, cette célébrité dont il bénéficie, le baptiste la met au service de notre Seigneur. Alors la question c'est comment ? Bon, il y a cet appel à la conversion qui interpelle, mais spirituellement, en mouvement, c'est contemporain. Et puis, il y a cette demande du baptême d'eau en signe de repentir. Jean précise aussi des actes concrets à poser. On l'a noté, ce sont des demandes de justice sociale. Il demande aux soldats de renoncer à la violence et que celui qui a du bien partage à celui qui n'en a pas. Mais il présente aussi l'immersion dans le Jourdain comme une étape avant la venue d'un autre. Autrement dit, il y a un second message qui vient avec l'appel à la conversion qui est orienté vers la venue d'un autre.
Alors c'est ainsi que dans Matthieu 3,11, on peut lire « Pour moi, je vous baptise dans de l'eau à cause du repentir. » Donc c'est Jean-Baptiste qui parle. « Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. »
Le baptiste développe donc ce second message qui parle de celui qui doit venir et de différentes manières. On a encore un exemple avec dans l'évangile de Saint Jean.
Alors Saint Jean, au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas et je ne suis pas digne de défaire la courroie de sa sandale.
Imaginons l'étonnement des Juifs en entendant celui qu'ils regardaient comme un grand prophète, un messie potentiel, se dire indigne de faire le travail d'un esclave pour celui qui vient, pour celui qui vient, dont on sait qu'il est au milieu de nous, mais on ne sait pas qui c'est. Alors c'est le passage qui est en dessous là.
Au milieu de vous, cela se réalise ici et maintenant pour nous, se tient celui que vous ne connaissez pas.
Avec le recul, on peut se poser cette question, quel est l'enjeu ? Rendre compréhensible l'action du Christ, et la rendre compréhensible au moins sur deux aspects très importants.
Quelle est la cohérence, Stéphane, entre le Christ et les Écritures ?
Alors, c'est le premier aspect, c'est un aspect fondamental de l'action du Baptiste. L'action du Baptiste place Jésus-Christ dans la continuité de l'histoire religieuse d'Israël, tout en faisant comme une inflexion. En effet, il y a dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, des pierres d'attente qui sont laissées de côté. Et au temps de Jésus, ceux qui étudient les Écritures attendent non seulement le Messie, mais ce prophète que Moïse avait promis et lequel pouvait correspondre au retour d'Élie. Pour beaucoup, les deux figures, Messie et prophète, vont de pair. Et d'ailleurs, si l'on regarde le livre du prophète Malachie, on voit que l'un prépare l'arrivée de l'autre.
En effet, dans Malachie 3.1, on peut lire « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper d'anathème le pays. »
Le fait que le Messie, le Christ, n'arrive pas seul est pour les contemporains de Jean cohérent avec ce que les Écritures disent du Messie. Aussi, dans les évangiles, on se pose la question de savoir si Jean est le Messie ou bien le prophète.
Alors c'est ainsi que dans Jean 1, 22, il est dit « Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu ?», il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Messie ». Ils lui demandèrent alors « Qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas ». Es-tu le prophète annoncé ? Il répondit non.
Il répond non à ces questions. Mais lorsqu'on interrogera Jésus plus tard, il dira de Jean le Baptiste qu'il est le prophète, cet Élie qui doit venir. Nous avons cette affirmation en Matthieu.
Qui dit « Tous les prophètes, ainsi que la loi, ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. »
Alors, que comprendre ? Jean-Baptiste était Élie dans un sens spirituel. Le texte de Luc dit que l'esprit et la puissance d'Élie résident en Jean, non pas qu'il était la réincarnation d'Élie. Jean le Baptiste a répondu qu'il n'était pas Élie. C'est quand même surprenant. Soit il le nie dans le sens d'une réincarnation, soit il n'a pas conscience de ce qu'il est. Je veux reprendre aussi les questionnements sur le Messie et le prophète parce qu'ils concernent aussi Jésus. D'ailleurs, les gens s'interrogent à propos de Jésus comme nous le rapporte encore Matthieu au chapitre 16.
Alors Matthieu 16, 13, Jésus dit à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ? Ils répondirent, pour les uns, c'est Jean le Baptiste. Pour d'autres, c'est Élie. Pour d'autres encore, c'est Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. »
Voilà. Simon-Pierre dit, « Tu es le Messie. Voilà. » Cette situation fait que il y a, avec Jean et Jésus, le rapprochement possible avec ces deux figures du prophète et du Messie. C'est la présence de Jean qui fait que les actions de Jean et de Jésus vont être comprises à la lumière de cette double figure, celle du retour d'Élie et celle du Messie. Et ceci va avoir un effet très positif, celui de donner un signe fort de légitimité à Jésus. Et du fait de cette cohérence avec ce qu'annoncent les Écritures. Alors, pour les disciples qui suivent Jésus, deux événements vont, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, clore un débat qui pourrait durer sans fin. Ces deux événements sont le baptême de Jésus et la transfiguration. Alors, j'ai commencé par la transfiguration, nous avons lu le texte récemment. Lors de la transfiguration, la présence de Moïse et Élie auprès de Jésus signifie que Jésus hérite du patrimoine spirituel d'Israël, puisque l'un et l'autre représentent toutes les Écritures. Moïse représente la loi et Élie les prophètes. Lorsque la voix retentit, au moment de la transfiguration, une voix retentit et Jésus est seul. Comme si tout se récapitulait en Jésus. Et que dit la voix ? Celui-ci est, non pas mon Messie, ni mon prophète, mais mon Fils. Cette figure du Fils va dépasser, on peut dire, la figure du Messie et du prophète. Et bien sûr, lors du baptême, la voix venue du ciel, lors du baptême de Jésus, va dire « Tu es mon Fils ». Voilà. Donc nous sommes passés... encore à une étape, à l'étape suivante avec ces deux événements, pour le croyant, pour le disciple qui approfondit le mystère de Jésus, la figure du Fils va dépasser les figures du prophète et du Messie, et c'est autour de cette troisième figure, entre guillemets, que le message chrétien va s'enraciner.
Alors, il nous reste, hélas, que 3 minutes pour terminer l'émission. Donc, on va aborder peut-être la dernière partie de notre intervention. Tu voulais parler, Stéphane, de cette fameuse phrase de Jean-Baptiste, « Il faut que je diminue pour qu'il grandisse ».
Oui.
En quoi Jean-Baptiste va-t-il diminuer pour que le Christ arrive ?
Il y a un événement fondateur dans la vie de Jean, c'est l'événement de la visitation. Jésus et Jean se rencontrent en même temps qu'Élisabeth et Marie. Si l'on considère, comme le texte nous y invite, que l'effusion d'Esprit-Saint promise à l'ange Gabriel, par l'ange Gabriel advient pour Jean lors de cette rencontre, alors on mesure la force du lien de dépendance de Jean à Jésus et à Marie. Jean s'éveille dans ce lien et il paraît en avoir conscience alors même qu'il est plébiscité par les foules. On peut citer le passage, c'est de lui que j'ai dit « Derrière moi vient un homme qui est passé devant moi parce que avant moi il était ». Mais surtout il y a en Jean 3 cette phrase, ce passage que si tu veux bien le lire, Jacques.
Alors le voilà, ce passage. « Un homme ne peut rien s'attribuer sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même pouvez témoigner ce que j'ai dit. Moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui, celui à qui l'épouse appartient. C'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse et moi que je diminue. »
Alors, il faut qu'il grandisse et moi que je diminue. Dans ce passage, Jean considère qu'il a accompli sa mission et ce sera aussi confirmé par Jésus et ce que l'Église aussi affirme. Cependant, alors qu'il a cette conscience en particulier par le baptême de Jésus, il avait extrêmement bien préparé la mission du Seigneur parce qu'il avait donné du sens à la croix. C'est Jean qui avait dit, eh bien, après ce baptême, Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Jean va être pris d'hésitation. On peut citer le passage dans Matthieu 11.
Alors, il y a ce curieux passage, effectivement, dans Matthieu 11, 2, où... Jean-Baptiste, dans sa prison, va s'interroger sur ce qui est Jésus, et c'est étonnant. Alors je lis le passage. « Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?»
Alors, ces hésitations de Jean montrent une fois encore que Jean, bien qu'il connaisse ce que Dieu attend de lui, et voit en Jésus celui qui vient d'en haut pour être l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, a sur d'autres aspects une connaissance partielle. Pour nous, les choses semblent aller de soi, mais pour Jean, il y a pu avoir donc cette hésitation. Saint Augustin dira de Jean, « Le plus grand des hommes a été envoyé pour rendre témoignage à celui qui était plus qu'un homme. » Pour Jésus et ses disciples, Jean a bel et bien accompli sa mission. L'Église confirme sa sainteté et nous encourage à l'invoquer, en particulier au moment de l'Avent et du Carême, car celui dont Jean a proclamé la venue reste encore à venir dans nos cœurs.
Voilà, mais c'est sur ces mots qu'on va clore cette émission. Merci Stéphane pour ton intervention. Merci Imanol pour ton appui technique. Et chers auditeurs, je vous dis à bientôt.
Merci à tous.